Bonjour, bienvenue dans l'émission Histoire 2 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Histoire 2 est une émission mensuelle consacrée à la lecture. Chaque mois, au gré de mes lectures, de mes envies et découvertes, je vous donne à écouter des textes littéraires. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravie de faire cette lecture à deux voix, accompagnée par mon amie Valérie Besançon. Bonsoir Valérie.
Bonsoir.
Valérie est comédienne, formée au Conservatoire National de Paris. Et aujourd'hui, elle partage son activité entre différents spectacles, dont de nombreuses lectures qu'elle donne en public, et la formation théâtrale qu'elle dispense dans différentes écoles. Et nous avons choisi aujourd'hui de vous lire « Sur la lecture » de Marcel Proust. C'est un texte qui a été écrit en 1905. Initialement, il était dédié à être uniquement la préface de la traduction de l'ouvrage « Sésame et Lilis » de John Ruskin, par Proust lui-même, mais il a ensuite été édité à part entière. Quel enchantement que ce texte ! Nous allons vous lire des extraits de ce texte qui décrit justement et magnifiquement le plaisir de lire. Alors, entrons en matière avec le tout début de « Sur la lecture ».
Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Tout ce qui, semblait-il, les remplissait pour les autres et que nous écartions comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin, le jeu pour lequel un ami venait nous chercher au passage le plus intéressant, l'abeille ou le rayon de soleil gênant qui nous forçait à lever les yeux de sur la page ou à changer de place, les provisions de goûter qu'on nous avait fait emporter et que nous laissions à côté de nous sur le banc sans y toucher, tandis que, au-dessus de notre tête, le soleil diminuait de force dans le ciel bleu, le dîner pour lequel il avait fallu rentrer où nous ne pensions qu'à monter finir tout de suite après le chapitre interrompu. Tout cela, dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l'importunité. Elle engravait au contraire en nous un souvenir tellement doux, tellement plus précieux à notre jugement actuel que ce que nous lisions alors avec tant d'amour, que, s'il nous arrive encore aujourd'hui de feuilleter ces livres d'autrefois, ce n'est plus que comme les seuls calendriers que nous ayons gardés des jours enfuis. Et avec l'espoir de voir refléter sur leurs pages les demeures et les étangs qui n'existent plus. Qui ne se souvient, comme moi, de ces lectures faites au temps des vacances, qu'on allait cacher successivement dans toutes celles des heures du jour qui étaient assez paisibles et assez inviolables pour pouvoir leur donner asile? Le matin, en rentrant du parc, quand tout le monde était parti faire une promenade, je me glissais dans la salle à manger où, jusqu'à l'heure encore lointaine du déjeuner, personne n'entrerait que la vieille Félicie relativement silencieuse et où je n'aurais pour compagnon très respectueux de ma lecture que les assiettes peintes accrochées au mur, le calendrier dont la feuille de la veille avait été fraîchement arrachée, la pendule et le feu qui parlent sans demander qu'on leur réponde et dont les doux propos vides de sens ne viennent pas comme les paroles des hommes en substituer un différent à celui des mots que vous lisez. Je m'installais sur une chaise, près du petit feu de bois dont, pendant le déjeuner, l'oncle matinal et jardinier dirait « Il ne fait pas de mal, on supporte très bien un peu de feu. Je vous assure qu'à 6 heures, il faisait joliment froid dans le potager et dire que c'est dans 8 jours Pâques. » Avant le déjeuner, qui, hélas, mettrait fin à la lecture, on avait encore 2 grandes heures.
Souvent, longtemps avant le déjeuner, commençaient à arriver dans la salle à manger ceux qui, étant fatigués, avaient abrégé la promenade. avaient pris par mes églises, ou ceux qui n'étaient pas sortis ce matin-là, ayant à écrire. Et il disait bien « Je ne veux pas te déranger », mais commençait aussitôt à s'approcher du feu, à consulter l'heure, à déclarer que le déjeuner ne serait pas mal accueilli. On entourait d'une particulière déférence celui ou celle qui était restée à écrire, et on lui disait « Vous avez fait votre petite correspondance ». Avec un sourire où il y avait du respect, du mystère, de la paillardise et des ménagements, comme si cette petite correspondance avait été à la fois un secret d'État, une prérogative, une bonne fortune et une indisposition. Quelques-uns, sans plus attendre, s'asseyaient d'avance à table, à leur place. Cela, c'était la désolation, car ce serait d'un mauvais exemple pour les autres arrivants à les faire croire qu'il était déjà midi et prononcer trop tôt à mes parents la parole fatale « Allons, ferme ton livre, on va déjeuner ». Après le déjeuner, ma lecture reprenait tout de suite. Surtout si la journée était un peu chaude, on montait se retirer dans sa chambre, ce qui me permettait, par le petit escalier aux marches rapprochées, de gagner tout de suite la mienne, à l'unique étage si bas que, des fenêtres enjambées, on n'aurait eu qu'un saut d'enfant à faire pour se retrouver dans la rue. J'allais fermer ma fenêtre, sans avoir pu esquiver le salut de l'armurier d'en face qui, sous prétexte de baisser ses hauts vents, venait tous les jours, après déjeuner, fumer sa pipe devant sa porte et dire bonjour aux passants qui, parfois, s'arrêtaient à causer.
Les théories de William Morris, qui ont été si constamment appliquées par Maple et les décorateurs anglais, édictent qu'une chambre n'est belle qu'à la condition de contenir seulement des choses qui nous soient utiles. Et que toute chose utile, fût-ce un simple clou, soit non pas dissimulée, mais apparente. Au-dessus du lit, à tringles de cuivre et entièrement découvert, au mur nu de ces chambres hygiéniques, quelques reproductions de chefs-d'œuvre. À la juger d'après les principes de cette esthétique, ma chambre n'était nullement belle, car elle était pleine de choses qui ne pouvaient servir à rien et qui dissimulaient pudiquement jusqu'à en rendre l'usage extrêmement difficile, celles qui servaient à quelque chose. Mais c'est justement de ces choses qui n'étaient pas là pour ma commodité, mais semblaient y être venues pour leur plaisir, que ma chambre tirait pour moi sa beauté. Ces hautes courtines blanches qui dérobaient au regard le lit placé comme au fond d'un sanctuaire. La jonchée de couvre-pieds en marceline, de courtes pointes à fleurs, de couvre-lits brodés, de têtes d'oreiller en batiste, sous laquelle il disparaissait le jour comme un autel au mois de Marie sous les festons et les fleurs, et que, le soir, pour pouvoir me coucher, j'allais poser avec précaution sur un fauteuil où il consentait à passer la nuit. À côté du lit, la trinité du verre à dessin bleu, du sucrier pareil et de la carafe, toujours vide depuis le lendemain de mon arrivée sur l'ordre de ma tante qui craignait de me la voir répandre, sorte d'instrument du culte, presque aussi sain que la précieuse liqueur de fleurs d'oranger placée près d'eux dans une ampoule de verre, que je n'aurais pas cru plus permis de profaner, ni même possible d'utiliser pour mon usage personnel que si ça avait été des ciboires consacrés, mais que je considérais longuement avant de me déshabiller dans la peur de les renverser par un faux mouvement. Ces petites étoles ajourées aux crochets qui jetaient sur le dos des fauteuils un manteau de rose blanche qui ne devait pas être sans épines, puisque chaque fois que j'avais fini de lire et que je voulais me lever, je m'apercevais que j'y étais restée accrochée. Cette cloche de verre, sous laquelle, isolée des contacts vulgaires, la pendule bavardait dans l'intimité pour des coquillages venus de loin et pour une vieille fleur sentimentale, mais qui était si lourde à soulever que, quand la pendule s'arrêtait, personne, excepté l'horloger, n'aurait été assez imprudent pour entreprendre de la remonter. Cette blanche nappe en guipure qui, jetée comme un revêtement d'autel sur la commode ornée de deux vases, d'une image du Sauveur et d'un buis béni, la faisait ressembler à la Sainte Table, dont un prie-Dieu rangeait là tous les jours quand on avait fini la chambre achevait d'évoquer l'idée, mais dont les effilochements, toujours engagés dans la fente des tiroirs, en arrêtaient si complètement le jeu que je ne pouvais jamais prendre un mouchoir sans faire tomber d'un seul coup image du sauveur, vase sacré, buis béni, et sans trébucher moi-même en me rattrapant au prix Dieu. Cette triple superposition, enfin, de petits rideaux d'étamine, de grands rideaux de mousseline et de plus grands rideaux de basin, toujours souriant dans leur blancheur d'aubépine, souvent ensoleillée, mais au fond bien agaçant dans leur maladresse et leur entêtement à jouer autour de leurs barres de bois parallèles et à se prendre les uns dans les autres et tous dans la fenêtre dès que je voulais l'ouvrir ou la fermer. Un second étant toujours prêt, si je parvenais à en dégager un premier, à venir prendre immédiatement sa place dans les jointures, aussi parfaitement bouchées par eux qu'elles l'eussent été par un buisson d'aubépines réelles ou par des nids d'hirondelles qui auraient eu la fantaisie de s'installer là. De sorte que cette opération, en apparence si simple, d'ouvrir ou de fermer ma croisée, je n'en venais jamais à bout sans le secours de quelqu'un de la maison. Toutes ces choses qui non seulement ne pouvaient répondre à aucun de mes besoins, mais apportaient même une entrave, d'ailleurs légère, à leur satisfaction, qui évidemment n'avait jamais été mise là pour l'utilité de quelqu'un, peuplaient ma chambre de pensées, en quelque sorte personnelles, avec cet air de prédilection d'avoir choisi de vivre là et de s'y plaire, qu'ont souvent, dans une clairière, les arbres et, au bord des chemins et sur les vieux murs, les fleurs. Elle la remplissait d'une vie silencieuse et diverse, d'un mystère où ma personne se trouvait à la fois perdue et charmée. Elle faisait de cette chambre une sorte de chapelle où le soleil, quand il traversait les petits carreaux rouges que mon oncle avait intercalés au haut des fenêtres, piquait sur les murs, après avoir rosé l'aubépine des rideaux, des lueurs aussi étranges que si la petite chapelle avait été enclose dans une plus grande nef à vitraux, et où le bruit des cloches arrivait si retentissant à cause de la proximité de notre maison et de l'église, à laquelle d'ailleurs, aux grandes fêtes, les reposoirs nous liaient par un chemin de fleurs, que je pouvais imaginer qu'elles étaient sonnées dans notre toit, juste au-dessus de la fenêtre, d'où je saluais souvent le curé tenant son bréviaire, ma tante revenant de vêpres, ou l'enfant de cœur qui nous portait du pain béni.
Quant à la photographie par Brown du printemps de Botticelli, ou au moulage de la femme inconnue du musée de Lille, qui, au mur et sur la cheminée des chambres de Maple, sont la part concédée par William Morris à l'inutile beauté, je dois avouer qu'ils étaient remplacés dans ma chambre par une sorte de gravure représentant le prince Eugène, terrible et beau dans son dolman, et que je fus très étonnée d'apercevoir une nuit, dans un grand fracas de locomotives et de grêles, toujours terrible et beau, à la porte d'un buffet de gare, où il servait de réclame à une spécialité de biscuits. Je soupçonne aujourd'hui mon grand-père de l'avoir autrefois reçu comme prime de la munificence d'un fabricant avant de l'installer à jamais dans ma chambre. Mais alors je ne me souciais pas de son origine qui me paraissait historique et mystérieuse et je n'imaginais pas qu'il pût y avoir plusieurs exemplaires de ce que je considérais comme une personne, comme un habitant permanent de la chambre que je ne faisais que partager avec lui et où je le retrouvais tous les ans, toujours pareil à lui-même. Il y a maintenant bien longtemps que je ne l'ai vu, et je suppose que je ne le reverrai jamais. Mais si une telle fortune m'advenait, je crois qu'il aurait bien plus de choses à me dire que le printemps de Botticelli. Je laisse les gens de goût orner leur demeure avec la reproduction des chefs-d'œuvre qu'ils admirent et décharger leur mémoire du soin de leur conserver une image précieuse en la confiant à un cadre de bois sculpté. Je laisse les gens de goût faire de leur chambre l'image même de leur goût et la remplir seulement de choses qu'ils puissent approuver. Pour moi, je ne me sens vivre et penser que dans une chambre où, Tout est la création et le langage de vie profondément différente de la mienne, d'un goût opposé au mien, où je ne retrouve rien de ma pensée consciente, où mon imagination s'exalte en se sentant plongée au sein du non-moi. Je ne me sens heureux qu'en mettant le pied, à avenue de la gare, sur le port ou place de l'église, dans un de ces hôtels de province au long corridor froid, où le vent du dehors lutte avec succès contre les efforts du calorifère, où la carte de géographie détaillée de l'arrondissement est encore le seul ornement des murs, où chaque bruit ne sert qu'à faire apparaître le silence en le déplaçant, où les chambres gardent un parfum de renfermé que le grand air vient laver mais n'efface pas, et que les narines aspirent sans foi pour l'apporter à l'imagination qui s'en enchante, qui le fait poser comme un modèle pour essayer de le recréer en elle, avec tout ce qu'il contient de pensées et de souvenirs. Où le soir, quand on ouvre la porte de sa chambre, on a le sentiment de violer toute la vie qui y est restée éparse. De la prendre hardiment par la main quand, la porte refermée, on entre plus avant jusqu'à la table ou jusqu'à la fenêtre. De s'asseoir dans une sorte de libre promiscuité avec elle sur le canapé exécuté par le tapissier du chef-lieu dans ce qu'il croyait le goût de Paris. De toucher partout la nudité de cette vie dans le dessein de se troubler soi-même par sa propre familiarité en posant ici et là ses affaires, en jouant le maître dans cette chambre pleine jusqu'au bord de l'âme des autres et qui garde jusque dans la forme des chenets et le dessin des rideaux l'empreinte de leurs rêves en marchant pieds nus sur son tapis inconnu. Alors, cette vie secrète, on a le sentiment de l'enfermer avec soi quand on va, tout tremblant, tirer le verrou, de la pousser devant soi dans le lit et de coucher enfin avec elle dans les grands draps blancs qui vous montent par-dessus la figure, tandis que, tout près, l'église sonne pour toute la ville les heures d'insomnie des mourants et des amoureux. Je n'étais pas depuis bien longtemps à lire dans ma chambre qu'il fallait aller au parc, à 1 kilomètre du village. Mais après le jeu obligé, j'abrégeais la fin du goûter apporté dans des paniers et distribué aux enfants au bord de la rivière, sur l'herbe où le livre avait été posé avec défense de le prendre encore. Je laissais les autres finir de goûter dans le bas du parc, au bord des cygnes, et je montais en courant dans le labyrinthe jusqu'à telle charmille où je m'asseyais, introuvable, adossée aux noisetiers taillés, apercevant le plant d'asperges, les bordures de fraisiers, le bassin où certains jours les chevaux faisaient monter l'eau en tournant, la porte blanche qui était la fin du parc, en haut, et au-delà les champs de bleuets et de coquelicots. Dans cette charmille, le silence était profond, le risque d'être découvert presque nul. La sécurité rendue plus douce par les cris éloignés qui, d'en bas, m'appelaient en vain, quelquefois même se rapprocher, monter les premiers talus, cherchant partout, puis s'en retourner, n'ayant pas trouvé.
Et quelquefois, à la maison, dans mon lit, longtemps après le dîner, les dernières heures de la soirée abritaient aussi ma lecture. Mais cela seulement les jours où j'étais arrivée au dernier chapitre d'un livre, où il n'y avait plus beaucoup à lire pour arriver à la fin. Alors, risquant d'être puni si j'étais découvert, et l'insomnie qui, le livre fini, se prolongerait peut-être toute la nuit, dès que mes parents étaient couchés, je rallumais ma bougie. Puis, la dernière page était lue. Le livre était fini. Il fallait arrêter la course éperdue des yeux et de la voix qui suivait sans bruit, s'arrêtant seulement pour reprendre haleine dans un soupir profond. Alors, afin de donner au tumulte depuis trop longtemps déchaîné en moi pour pouvoir se calmer ainsi, d'autres mouvements à diriger, je me levais, je me mettais à marcher le long de mon lit, les yeux encore fixés à quelques points qu'on aurait vainement cherché dans la chambre ou dehors, car il n'était situé qu'à une distance d'âme, une de ces distances qui ne se mesurent pas par mètre et par lieu comme les autres, et qu'il est d'ailleurs impossible de confondre avec elle quand on regarde les yeux lointains de ceux qui pensent à autre chose. Alors quoi ? Ce livre, ce n'était que cela. Ces êtres à qui on avait donné plus de son attention et de sa tendresse qu'aux gens de la vie, n'osant pas toujours avouer à quel point on les aimait. Et même, quand nos parents nous trouvaient en train de lire et avaient l'air de sourire de notre émotion, fermant le livre avec une indifférence affectée ou un ennui fin, ces gens pour qui on avait haleté et sangloté, on ne les verrait plus jamais. On ne saurait plus rien d'eux. Déjà, depuis quelques pages, l'auteur, dans le cruel épilogue, avait eu soin de les espacer avec une indifférence incroyable pour qui savait l'intérêt avec lequel il les avait suivis jusque-là pas à pas. L'emploi de chaque heure de leur vie nous avait été narré, puis, subitement, 20 ans après ces événements, on pouvait rencontrer dans les rues de Fougères un vieillard encore droit, etc. Et le mariage dont 2 volumes avaient été employés à nous faire entrevoir la possibilité délicieuse, nous effrayant puis nous réjouissant de chaque obstacle dressé puis aplani. C'est par une phrase incidente d'un personnage secondaire que nous apprenions qu'il avait été célébré, nous ne savions pas au juste quand, dans cet étonnant épilogue, écrit, semblait-il, du haut du ciel, par une personne indifférente à nos passions d'un jour qui s'était substituée à l'auteur. On aurait tant voulu que le livre continuât. Et, si c'était impossible, avoir d'autres renseignements sur tous ces personnages, apprendre maintenant quelque chose de leur vie. Employer la nôtre à des choses qui ne fussent pas tout à fait étrangères à l'amour qu'ils nous avaient inspiré et dont l'objet nous faisait tout à coup défaut. Ne pas avoir aimé en vain, pour une heure, des êtres qui, demain, ne seraient plus qu'un nom sur une page oubliée. dans un livre sans rapport avec la vie, et sur la valeur duquel nous nous étions bien mépris, puisque son lot ici-bas, nous le comprenions maintenant, et nos parents nous l'apprenaient au besoin d'une phrase dédaigneuse, n'était nullement, comme nous l'avions cru, de contenir l'univers et sa destinée, mais d'occuper une place fort étroite dans la bibliothèque du notaire, entre les fastes sans prestige du journal des modes illustré et de la géographie d'Eure-et-Loire.
Et voilà, ainsi s'achève notre émission Histoire 2 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. J'étais particulièrement heureuse de faire cette lecture avec Valérie. Merci beaucoup Valérie. Et je crois que, sans rien révéler, nous avons pris beaucoup de plaisir à lire ce texte pour lequel nous avons une tendresse particulière. Voilà, nous nous quittons. Merci beaucoup donc à Valérie, à Damien pour la technique. Nous avons entendu la Gnossienne numéro 5 d'Éric Satie et nous allons nous quitter sur cet extra de Léo Ferré parce que la lecture, c'est extra. Bye bye!
Une robe de cuir comme un fuseau qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. Cet extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est extra. C'est extra, c'est extra, c'est extra. Ces bas qui tiennent au perché comme les cordes d'un violon. Et cette chair que vient troubler l'archer qui coule ma chanson. C'est extra, et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra, c'est extra, c'est extra. C'est extra. Une robe de cuir comme un oubli qu'aurait du chien sans faire exprès. Et dedans, comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra. Les maudits blues qui s'en balancent, cet ampli qui ne veut plus rien dire. Et dans la musique du silence, une fille qui tangue et vient mourir. c'est extra, c'est extra, c'est extra.